Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Universitaire en action, édition du 28 mai 2023, 9h du matin jusqu'à 10h tous les dimanches matin. J'espère que vous allez bien. Wissem Benster au microphone avec vous pour la prochaine heure. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'informations pour vous. Tout d'abord, on va commencer avec le CF Montréal qui joue hier. Et on va poursuivre avec l'Alliance de Montréal. Annie Larouche, vice-présidente aux opérations, mesdames et messieurs, sera avec nous en deuxième partie de l'émission. Et on va parler de la saison de l'Alliance de Montréal qui jouait son premier match, son match d'ouverture, vendredi, 19h. L'auditorium de Verdun était plein. Salle comble, mesdames et messieurs. Il était totalement plein. 3500 personnes. Et oui, premier match de la saison, meilleure foule de toute la Ligue, selon les entraîneurs et d'autres joueurs de la CBL l'année dernière. Et l'auditorium de Verdun était plein. Donc, ça fait plaisir à voir. On aura Annie Larouche en deuxième partie d'émission. Une entrevue d'une vingtaine de minutes qui va durer. Puis, on aura aussi quelques actualités. Niveau soccer à l'heure actuelle, match... actualité. Eh bien, Bologne joue contre Naples, ça vient de commencer, et Monza joue contre Lecce, c'est 0-0 dans les deux matchs. Et niveau Pays-Bas, eh bien, c'est ça tire à sa fin, on le sait, là, Feyenoord joue contre Vitesse Arnhem à l'heure actuelle, et c'est 0-0, et Feyenoord de Rotterdam est champion des Pays-Bas, et ça fait du bien, puisqu'on sait que c'est très régulièrement le PSV ou l'Ajax Amsterdam. D'ailleurs, également, hier, il y avait le match numéro 6 entre certaines équipes, les Celtics, les Boston Celtics et le Miami Heat. Et les Celtics de Boston l'ont emporté pour faire en sorte que la série revient à égalité à 3-3. Mais il faut rappeler que Miami menait 3-0 la série. Et demain soir, si vous avez rien à faire, là, allez dans un petit bar sportif ou avec des amis. Allez regarder ça. Le match 7, 20h30, coup d'envoi à Boston en direct du TD Garden. Match numéro 7. Pour voir peut-être une équipe renverser la vapeur en perdant 3-0 et gagner la série 4-3. Donc, on va commencer en passant à la musique aujourd'hui. Ben oui, on a du Philippe Braque, on a du Marigold et on a du DJ Unk, parce que je trouve que ça allait bien avec le thème de basketball. C'est une chanson un peu rythmée, un peu hip-hop. C'est un classique aussi de mes années à l'université. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu cette chanson-là, donc j'ai décidé de la remettre tout simplement. Donc voilà. On commence avec le CF Montréal. Hier, on recevait l'Inter de Miami. L'Inter de Miami qui avait la même fiche que nous avant le match. C'est une équipe qui est comme nous, c'est-à-dire qu'il y a quelques bons joueurs, mais c'est pas une équipe, une des puissances de la MLS. Le 11 offensif ressemblait à ceci. Hier soir, on avait Jonathan Sirois dans les buts. Défense à 3, Waterman, Campbell et Corbo, l'Italien. Milieu de terrain à 2 avec Wanyama et Mathieu Chouanière. Mathieu Chouanière qui enchaîne les matchs, qui joue très régulièrement et ça lui fait du bien, même si là, peut-être il va falloir faire attention aux blessures avec Mathieu, parce qu'il se donne beaucoup. Piston à gauche, Lassie Lapalainen, le Finlandais, et à droite Aaron Herrera, l'Américain. En créateur de jeu, en attaque Duke, Dilly Duke, ancien joueur d'ailleurs de l'Inter de Miami. Et en attaque, Chinonso au For Ibrahim Sounoussi. Donc, les deux attaquants qui viennent du Nigeria. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Ariel Lasseter était sur le banc. Et quand il était entré, ben c'est sa passe qui a fait 1-0. Une passe, là, un centre à terre que Chinonso Ofor a pu mettre au fond du filet. Et ça a été le score final. Ça a été un score final de 1-0 avec un stade rempli. 19 600 19 spectateurs. Donc, c'était ça le comble hier du côté du Stade Saputo avec une météo parfaite. Là, c'était 20-25 degrés, aucune ciel dégagé. Il faisait chaud. Bon, c'était une bonne soirée d'été. D'ailleurs, aujourd'hui, ça sera pareil. Là, on va être dans les 20-25 degrés cet après-midi. Donc, profitez-en, allez profiter du soleil. Donc, ça a été un beau match côté CF Montréal. La première mi-temps, il y a eu des opportunités un peu pour les deux équipes, mais aucune trop grosse opportunité. C'était un match dans lequel il y avait beaucoup d'espace, mais on sait, là, on n'a pas non plus les joueurs les plus techniques de toute la planète foot. Donc, des fois, pour avoir des occasions, ça prend plus de chance pour la mettre au fond. Et hier, c'est ce qui est arrivé avec l'entrée de Ariel Lasseter, qui est un joueur qui est très déséquilibrant, qui peut effacer avec sa vitesse, qui peut dribbler. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Et puis, il a centré flanc gauche pour Chinonso Ofor, qui a mis quand même son 4e but de la saison. On le sait, Chinonso Ofor, je le dis souvent à l'émission, ça n'est pas le joueur le plus technique. Ça n'est pas le meilleur finisseur au monde, très loin de là, vraiment très loin. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il se bat à chaque match, il essaye, il se donne, et même quand ça ne marche pas, eh bien, il continue. Et dans la vie, même si des fois, vaut mieux rater et essayer que de ne pas essayer avoir des regrets. Et c'est ce que Chinonso Ofor fait, et l'entraîneur est très satisfait de lui. D'ailleurs, il a dit en conférence de presse là qu'il aurait posé une question comme quoi il était souvent critiqué par certaines personnes, et l'entraîneur a dit que, bien entendu, lui, il ne l'a jamais critiqué, son attaquant numéro 9. Donc, quelques petites informations également sur ce match. Eh bien, dans un deuxième match consécutif de saison régulière à guichet fermé. Donc, c'était le deuxième. Le CF Montréal a blanchi l'Inter de Miami 1-0 au Stade Saputo. Malgré une domination des Montréalais de la première mi-temps, les deux équipes sont rentrées au vestiaire 0-0. Puis c'est après, là, en deuxième mi-temps, que Ariel Lasseter a trouvé Chinonso Ofor pour qu'il marque son but vainqueur. Maintenant, le CF Montréal va quitter pour un triplé de matchs sur la route, une partie très importante de la saison. Montréal va jouer tout d'abord contre DC United au OD Field ce mercredi 19h30. Le match sera disponible, bien sûr, sur RDS, TSN, BPM Sport à la radio, TSN 690 en anglais à la radio et Apple MLS Season Pass. Avant d'affronter Philadelphia Union samedi prochain 19h30 au Subaru Park, ça va pas être un déplacement facile, là. On le sait. Le Philadelphia Union, ils viennent de gagner 3-1 contre New York City FC. Et ils ont, bon, Daniel Gazdag, l'Hongrois, Michael Urey et Carranza, qui sont les trois joueurs offensifs là, qui jouent pratiquement la très grande majorité des matchs. Et ça sera pas un déplacement facile, même si on les a battus ici au Stade Olympique, notre première victoire de la saison, 3-2, si je ne me trompe pas. Et l'équipe ensuite se rendra à Vancouver pour y disputer la finale du championnat canadien le 7 juin contre le Vancouver Whitecaps à 22h au BC Place. Et ça sera diffusé sur One Soccer, chaîne de télévision canadienne. Il y aura également BPM Sport et TSN 690 qui diffuseront le match à la radio. Donc quand même, hein, on est en finale de championnat canadien, puisqu'on a vaincu en milieu de semaine. Il y avait un match mercredi contre Forge. Forge, c'est une équipe de Hamilton. Il y avait d'ailleurs David Chouanière, le frère de Mathieu Chouanière. Et on a remporté la victoire 2-0, ce qui nous donne une place qualificative pour la finale du championnat canadien à Vancouver contre les Whitecaps à 22h au BC Place. Le 7 juin, ça c'est un match très important parce que tu gagnes ce match-là. Peu importe ce qui arrive durant la saison, tu auras quand même gagné un trophée, ce qui est le championnat canadien. On le sait très bien, la très grande majorité des équipes de MLS ne gagneront absolument rien. Et donc, pour gagner le championnat canadien, ça serait extrêmement bien. Et en plus, bien, ça nous qualifie pour la Ligue des champions de la CONCACAF, mesdames et messieurs. Donc, on va voir là, ce match-là. On va en parler en long et en large. Probablement la semaine prochaine, on va parler un peu de la preview de ce match-là. Malheureusement, c'est à 10h ici, là, donc il va falloir quand même rester éveillé tard pour voir ce match-là. Et bien entendu, ce ne sont pas tous les bars sportifs qui passent ce match. Parce que vous le savez, j'en ai parlé il y a quelques semaines à l'émission. Là. On va mettre même du hockey ou de la NBA qui concerne des équipes qui ne sont même pas montréalaises avant de mettre la finale du championnat canadien à l'antenne dans un bar sportif. Je l'ai vécu il y a quelques semaines avec un match du CF Montréal qui se déplaçait. Je crois que c'était Kansas City ou je m'en rappelle plus, mais en tout cas, c'était comme ça. Note de match par rapport au match, la séquence du CF Montréal sans avoir concédé un but en MLS à domicile est maintenant de 405 minutes. Donc, c'est le moment swag de l'émission. Et ça, c'est Jonathan Sirois qui aurait réussi un quatrième jeu blanc de suite à domicile, toute compétition confondue. Il faut le rappeler, Jonathan Sirois, au début de saison, ce n'était pas du tout le numéro 1 du CF Montréal, c'était James Pantemis. Mais James Pantemis s'est blessé lors du premier match contre l'Inter Miami dans la défaite. Et donc, Jonathan Sirois, on l'a téléphoné, il était remplaçant, il a pris sa place. Et puis, il a très bien fait, puisque jusqu'à l'heure actuelle, il n'a accordé aucun mauvais but dans tous les matchs que j'ai vus de lui. Et donc, ce qui arrive à James Pantemis, eh bien, c'est ce qu'il a fait l'année dernière indirectement. Là, c'est pas ce qu'il a fait. Mais Sébastien Breza, qui joue maintenant en troisième division italienne, était le titulaire l'année dernière et s'est blessé. James Pantemis a pris sa place. James Pantemis, montréalais, en passant, qui vient d'ici, du Québec. Il a pris sa place, il l'a bien fait. Donc, Sébastien Breza est resté sur le banc. Et ça, c'était avec Wilfried Nancy. Cette année, pareil avec Hernan Losada, Jonathan Sirois qui donne des belles performances à l'équipe. Et donc, eh bien, il ne peut pas le mettre sur le banc pour faire place au numéro 1 officiel de l'équipe, puisqu'il fait bien. Et il a fait bien pendant tous les matchs. Donc, c'est quand même une situation délicate, mais je suis sûr que les deux gardiens de but s'entendent bien. D'ailleurs, on les voit des fois à l'entraînement. Là, il y a quand même du bon travail d'équipe. Il y a un bon esprit d'équipe à l'heure actuelle avec le CF Montréal, comme l'année dernière, comme on l'a vu. Et donc, ça fait plaisir à voir. C'est sûr que si le gardien numéro un, c'était, je sais pas moi, Michael Neuer, par exemple, le gardien allemand, peut-être que ça aurait été différent. Mais bon, James Pantemis, c'est un bon gardien, mais c'est pas non plus la superstar des superstars. Il est en équipe canadienne nationale. Peut-être qu'un jour, il sera titulaire, mais devant lui, au Canada, à l'heure actuelle, il y a quand même des gardiens meilleurs que lui. Et Jonathan Sirois, cette année, eh bien, personne ne peut rien lui reprocher. Même dans les défaites humiliantes qu'on a eues au début de saison, sans marquer des buts et en se faisant marquer beaucoup de buts, notamment ce match du côté de Vancouver contre les Whitecaps. Et le but de Chinonso Four, comme j'ai dit tout à l'heure, était son quatrième but, toute compétition confondue avec le CF Montréal. Maintenant, une petite déclaration d'après-match. On a des audios, des extraits audio à faire écouter. On va commencer avec Rudy Camacho. Donc, Rudy Camacho, qui avait un petit break. D'ailleurs, j'ai posé la question en conférence de presse. À la fin, il commence beaucoup de matchs. Et ce match-ci, il est rentré en deuxième mi-temps. On lui a demandé. Et il a dit, le repos a fait du bien, mais je voulais jouer aussi. On a des matchs importants à venir. On a été solides collectivement. Tout le monde peut être mis à contribution. Ça fait du bien. Ça fait bien pour la confiance de gagner des matchs. Mais on espère aller chercher des points sur la route. Voyez, donc, c'était la déclaration de Rudy Camacho. À la fin du match, on le sait, là, le CF Montréal, il faut le rappeler quand même, là. Le CF Montréal n'a pas Romel Kyoto, l'attaquant vedette de l'équipe, de loin. En fait, pas de loin, là, mais de loin, un des meilleurs joueurs offensifs de l'équipe. Puisqu'on peut aussi dire que Dilly Duke et Lasseter, c'est quand même très solide. Et ils n'ont pas non plus le capitaine Samuel Piette. Et malgré ça, on enchaîne les bons résultats. Mais on le sait, là, il va y avoir énormément de matchs dans les prochaines semaines parce qu'il y a des matchs en milieu de semaine et en plus, il y a le championnat canadien, la finale. Donc, tout le monde doit être mis à contribution, même que Anthony Vilsain a eu des minutes dans le match contre Forge. Il a d'ailleurs bien fait pour le peu de minutes qu'il a eu. Maintenant, au niveau classement, qu'est-ce que ça donne à l'heure actuelle dans le classement de la MLS? Pendant que je retrouve mes feuilles que j'ai échappées sur le plancher, mesdames et messieurs, on va vous retrouver ça ici. Donc voilà, pour commencer, eh bien, on le sait, le CF Montréal n'est pas premier au classement général de la MLS, mais par contre, le premier dans la conférence de l'Est, Cincinnati, 14 matchs joués, 33 points. Deuxième, Nashville. Troisième, Nouvelle-Angleterre. Quatrième, Philadelphie. Cinquième, Atlanta. Sixième, Charlotte. Septième, Orlando. Huitième et, à l'heure actuelle, qualifié pour les playoffs des playoffs. Donc, le match de barrage pour participer aux playoffs. Le CF Montréal, neuvième. Columbus, dixième. C'est quand même très étonnant parce que Columbus, mais ils ont un match de moins de joué, mais Columbus, ils ont toutes une équipe, notamment avec l'international arménien Lucas Zelarayan, qui est né en Argentine, je crois, mais qui a des origines arméniennes. New York City FC, 11e, 12e Chicago, 13e New York Red Bulls, 14e Toronto et 15e Miami. Faut dire quand même qu'entre le dernier Miami, qui est 15e, Et le 9e, qui est le CF Montréal, il y a seulement 3 points de différence, là. Donc, c'est pas du tout définitif, là. Il reste beaucoup de matchs à jouer. Et un match, là, ça peut chambouler déjà tout le classement. Donc, sachant qu'il reste déjà, il reste exactement 20 matchs, là, parce qu'il y en a 34 dans la saison, si je me trompe pas, pour le CF Montréal. Ça va être intéressant à voir qui va se qualifier pour les playoffs. Conférence de l'Ouest, Seattle premier avec 26 points. Seattle qui fait une très belle saison, mais qui n'est pas premier de la ligue puisque c'est Cincinnati avec ses 33 points. Deuxième, Saint-Louis, équipe d'expansion. Troisième, Los Angeles FC, une équipe qui est loadée avec des joueurs talentueux, avec beaucoup d'argent, avec un fanbase énorme du côté de Los Angeles. Ils ont d'ailleurs deux équipes, là, donc c'est dire. Dallas, quatrième. San Jose, cinquième. Minnesota, sixième. Septième, Houston. Huitième, Vancouver. Neuvième, Portland. Austin, au Texas. Dixième, Salt Lake. Onzième, avec 16 points. Et après ça, on y va avec... il manque une petite feuille ici. Sporting Kansas City, 13e avec 10 points. Et LA Galaxy, l'équipe de Javier Hernandez, El Chicharito. Eh bien, ils sont bons derniers avec 9 points en 14 matchs. Donc, ce qu'on voit à l'heure actuelle, là, c'est que les deux derniers de la conférence de l'Ouest sont très largement loin derrière les derniers de l'Est. Là, il y a 6 points de différence entre le dernier de l'Ouest et le dernier de l'Est. Résultats qui se sont passés hier soir, chers auditeurs, chers auditrices. Vous écoutez Universitaire en action, CISM, la plus grande radio francophone universitaire au monde. Également en rediffusion sur les ondes de CFAC Soccer Sport tous les lundis soirs, 20h. Donc, les résultats qui se sont passés hier. CF Montréal, Miami 1-0. New England, Chicago 3-3. Philadelphie s'impose à New York contre New York City FC 3-1. Atlanta, Orlando 1-1. Toronto, DC United 2-1 pour Toronto avec deux passes de Lorenzo Insigne. Houston bat Austin 2-1 dans un match 100% du Texas. Minnesota, Real Salt Lake 1-1. Saint-Louis 3, Vancouver 1. Colorado s'incline à domicile contre Cincinnati 1-0. Charlotte bat Los Angeles Galaxy 1-0 à l'extérieur. Et San Jose Earthquakes contre Dallas 1-1. C'est San Jose et non pas San Jose. S'il vous plaît, ne dites pas San Jose. Un minimum de culture générale, mesdames et messieurs. Donc maintenant, on va écouter les entrevues de Jonathan Sirois et Hernan Losada. Les entrevues d'après-match qu'on a réalisées. L'équipe de CSM et autres journalistes également.
Bonsoir Jonathan, félicitations pour ta performance. La foule a scandé ton nom deux fois durant la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que ça t'a fait personnellement? Est-ce que tu t'attendais à ça deux fois quand même dans un match?
Non, ça ne sent pas ça, mais c'est un bon feeling. Écoute, c'est un peu dur à décrire le sentiment que ça me fait. T'sais, moi, je suis un gars ici, je suis de Montréal, puis ça a toujours été mon rêve de jouer ici. Lorsque ça plutôt sans le comble, puis faire des arrêts pour remporter une victoire. Fait. Moi, je suis en train de vivre des super beaux moments. J'espère seulement pouvoir transmettre un peu mon énergie positive à la foule quand je peux. Puis, heureusement, je pense qu'on sont ressortis ce soir du stade content.
Merci. Salut, coach. Salut, Jérémy. Félicitations pour la victoire. Ça a été deux matchs qui se sont ressemblés un peu. Première demi où on s'est un peu plus étudié et l'entrée de la 7-2, deux matchs consécutifs, fait la différence. Tu nous avais parlé lors du dernier match qu'à la mi-temps, tu lui avais demandé sois plus percutant, quand approche, gêne-toi pas. Il a fait la même chose encore ce soir. À quel point il vous donne ce que vous avez besoin?
Non, exactement comme vous avez expliqué. C'était déjà dans ma tête de faire des changements à la mi-temps, de mettre les joueurs fraîches. Pour faire la différence, je sais qu'Ariel avec son pied gauche, quand il joue à gauche, il touche avec deux attaquants, il touche avec un attaquant comme Gino Sofort, il reçoit le centre. Et pas de mettre le centre, fermer le jeu et mettre le ballon sur le grand carré, mais un centre avec une idée derrière. Centre au sol, fort entre la défense et le gardien. Gino, il était là. Il a besoin de jouer aussi là, mais Ariel il a bien rentré avec la vitesse. Là, c'est la plan, il était malade, c'est pour ça qu'il n'est pas joué les matchs contre la Coupe. Il a donné tous 45 minutes. Et c'est un peu la rotation. Il a des fois que tu fais plus de rotation, il a des fois que tu fais moins de rotation, ça dépend du résultat de l'autre équipe. Mais je suis toujours content avec des joueurs qui rentrent à la mi-temps ou qui rentrent à la fin du match parce que c'est pas facile, c'est pas évident de rentrer dans le match avec la vitesse d'exécution, avec c'est pas évident, c'est pas facile. Un grand merci, un grand chapeau à tous les joueurs qui rentrent avec la bonne mentalité pour faire la différence.
Voilà, donc c'était l'entraîneur-chef Hernán Losada et Jonathan Sirois avant lui. Donc évidemment, satisfait de la rencontre. Hernán Losada, encore une fois, vanté Ariel Lassiter, qui joue d'une très belle façon avec le CF Montréal, qui produit beaucoup d'occasions, qui se donne également, qui est capable d'éliminer, de dribbler, de jouer avec vitesse, de centrer. Donc voilà, ça fait du bien pour le CF Montréal. Et Jonathan Sirois, lui, qui a rappelé que c'est un gars de la place, qui vient d'ici, c'est un Québécois, il est de la région montréalaise, si je ne me trompe pas, je pense de la Rive-Sud. Et donc, pour avoir une innovation deux fois dans un match, scandé son nom, eh bien, il a très bien apprécié, puisque ça, vous l'avez peut-être pas entendu à la télé si vous avez vu le match, mais c'était quand même très beau à voir, et il a fait deux gros arrêts qui ont permis au CF Montréal de rester dans le match et de remporter ce match et les trois points qui étaient super importants, parce que l'Inter de Miami, c'est un rival direct pour la qualification pour les séries éliminatoires avec la MLS dans l'Est. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ce petit segment du CF Montréal. Maintenant, on y va en musique avec DJ Unk et Two Step, et après ça, on revient avec plus d'informations à Universitaire en action et à Soccer Sport. Vous écoutez CISM à Universitaire en action. retour à Universitaire en action sur les ondes de CISM, également en rediffusion à CFAC Soccer Sport. Donc, on vient d'entendre la chanson Two Step de G.J. Hunk, une très bonne chanson qui date, mais qui est toujours bonne. Donc, maintenant, un petit résultat en direct à CISM et à CFAC. On a Naples qui mène 1-0 sur la pelouse de Bologne avec un but de Victor Osimhen, son 24e de la saison. C'est le meilleur buteur italien à l'heure actuelle. Il a 3 buts de plus que Lautaro Martinez qui joue avec l'Inter de Milan. Également l'Ajax d'Amsterdam, mène 1-0 sur la pelouse du FC Twente avec un but de nul autre que Dusan Tadic, international serbe. Donc maintenant, on va y aller en entrevue avec Annie Larouche. C'est une entrevue que j'ai réalisée plus tôt cette semaine. Donc c'est la vice-présidente aux opérations de l'Alliance de Montréal. Dans l'entrevue, on va expliquer c'est quoi son rôle également, c'est quoi le projet pour l'Alliance de Montréal, comment est-ce qu'elle va évaluer les succès de l'équipe cette année. On écoute ça, c'est une entrevue d'une vingtaine de minutes et après, on revient sur les ondes de CISM. Bonne écoute. On est avec Annie Larouche, vice-présidente aux opérations de l'Alliance de Montréal. Annie, comment ça va ce soir?
Ça va très bien.
Excellent. Donc, merci de ton temps tout d'abord ici à CISM et à CFAC. Ça nous fait très plaisir de te recevoir pour tu es la première personne de l'Alliance de Montréal qui vient nous parler. Donc, merci beaucoup.
Ben merci, je suis honorée. Merci de l'invitation.
Merci, ça fait plaisir. Je voudrais te demander tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, voir t'es qui, tu viens d'où, etc., etc.?
Ouais, bon, on remonte à loin, mais je suis une fille de Montréal. Née et grandie, j'habite toujours à Montréal. Okay. Et puis, mon Dieu, j'ai baigné dans le monde du sport et de la danse moi-même. Là, quand j'étais jeune, j'étais gymnaste, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai étudié en droit. J'ai travaillé en chambre criminelle au Palais de justice de Montréal. Et puis, parallèlement à ça, ben je continuais toujours, après avoir été athlète, j'entraînais, j'étais maintenant coach, juge, etc. Et puis, ça m'a amené tranquillement au monde du sport professionnel, avec la machine de Montréal, avec les Dragons, l'équipe de basketball qui jouait justement à l'Auditorium de Verdun en 1993, oui. Fait qu'on remonte à loin. avec les Roadrunners avec l'Express. Je sais pas si les gens se souviennent de l'Express, mais c'est une équipe de la crosse qu'on a eue. Mon Dieu, je pense que c'était en 95. Donc, c'est ça. Et puis, en 96, j'ai joint les Alouettes. Alors, on se rappellera que c'était les Stallions de Baltimore qui revenaient à Montréal. Et puis, qui redevenait les Alouettes après 25 ans, si je ne me trompe pas. Et puis, j'ai commencé à l'époque comme coordonnatrice de l'équipe de cheerleading, toujours en continuant au Palais de justice de Montréal. Okay. Et en 99, okay. J'ai joint les Alouettes à temps plein en tant que directrice des relations communautaires. J'ai fait plusieurs rôles là, avec les Alouettes. J'ai touché au marketing, j'étais directrice de la fondation et finalement, j'étais 25 ans avec les Alouettes, mais j'ai toujours gardé l'équipe de cheerleading, toujours. Et puis, quand la LECB m'a approché en 2021 pour me présenter, pour me faire cette belle offre-là, j'ai pas pu résister de relever ce beau défi-là et j'ai sauté à pieds joints dans l'aventure de l'Alliance.
OK, génial. Écoute, c'est une très belle présentation.
Merci.
Juste petite question, je suis quelqu'un de curieux. Quand tu dis né et grandi à Montréal, en fait, c'est pareil presque pour moi, sauf que moi, j'ai habité à la Rive-Sud, mais je suis né sur Montréal, en tout cas. Parenthèse fermée, c'est dans quel coin de Montréal que tu as grandi?
Hanstick,
OK. Donc, ça serait plus le nord-est un peu?
Nord-est, oui.
Nord-est,
oui.
Excellent. Très bonne présentation. Puis, ta passion pour le sport, est-ce qu'elle t'est venue par toi-même ou ça vient de ta famille ou comment est-ce que ça s'est passé?
Ah, c'est une bonne question. J'ai toujours, du plus loin que je me souvienne, probablement que je suis hyperactive, non diagnostiquée officiellement, ouais. Mais j'ai toujours aimé, ma mère m'a inscrite en danse quand j'avais 4 ans. Apparemment, okay. J'avais vraiment besoin de bouger, donc j'ai commencé comme ça. J'ai, j'ai, j'aimais essayer tous les sports. T'sais, je me souviens à l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire, c'est quand on arrivait au cours d'éducation physique et qu'on sortait et qu'on allait jouer au baseball, j'étais super contente. Je ne viens pas d'une famille de grands sportifs. Mon grand-père, je me souviens, on était au chalet l'été, puis on écoutait Roger Brulotte avec les expos. Donc, j'ai toujours aimé ça. Puis pour moi, ben, c'était quand je m'entraînais intensément, plusieurs heures par semaine, 15 heures par semaine, alors que j'étais fin du primaire, début secondaire. Donc, oui, j'ai toujours aimé ça.
OK, cool, excellent. Puis maintenant, on va rentrer dans les choses encore plus sérieuses. Moi, j'ai étudié un peu ça, le rôle de vice-président d'opération. Est-ce que je me trompe en disant que ça s'occupe de pas mal tout, sauf l'équipe qui est sur le court, ou c'est différent un peu?
Non, effectivement, je touche à tout. Mon Dieu, comment le résumer? En fait, je gère tout le volet administratif. Alors, évidemment, dépendamment de l'équipe, où est-ce qu'on est, ou de l'entreprise, ça pourrait différer. Mais dans mon cas, avec l'Alliance, je gère tout ce qui se passe à l'Alliance, que ce soit côté administratif avec les finances, les ressources humaines, les planifications stratégiques, les opérations en tant que telles, la négociation de bail avec la ville.
Oui.
Dans le fond, mon rôle avec les opérations basketball, c'est d'engager le personnel, donc d'engager notre DG qui est Joël Anthony, de voir avec lui quelle va être notre stratégie, notre positionnement. C'est sûr que c'est pas moi qui va recruter les joueurs, qui va recruter le coach, mais on s'assoit ensemble, on établit des critères, on établit une stratégie, puis après ça, ben c'est son rôle à lui de former l'équipe, évidemment gérer les budgets aussi.
OK, génial. Donc, en fait, c'est un rôle très important parce que tu t'occupes en partie, même si c'est pas toi la propriétaire, tu t'occupes en partie un côté financier relié à l'équipe.
Absolument.
OK. Oui. Petite curiosité, j'ai pas nécessairement savoir le montant exact, mais vous, l'Alliance de Montréal, donc la CIBL, parce que ça appartient à la CIBL,
oui.
Vous devez payer un montant d'argent à la Ville de Montréal chaque année pour avoir droit de jouer vos matchs là-bas, c'est ça?
Exactement, on paye un loyer.
Ah, c'est pas un loyer comme quelqu'un qui achète une business, paye un loyer pareil.
Okay. Exactement, oui.
Puis le montant de ce loyer-là, j'imagine que c'est confidentiel, c'est pas...
Non. Je pense que c'est, étant donné que c'est avec la ville, c'est des informations qui sont publiques.
OK.
Je vais laisser les gens faire leur recherche.
OK.
Mais évidemment, on a, si je peux me permettre l'expression, là, on a magasiné un peu, on a bien cherché, on voulait avoir... Moi, c'est important d'avoir un endroit, je vais utiliser un anglicisme, là, mais un one-stop shop. Donc, tout est au même endroit. Je voulais avoir les pratiques, les matchs, les bureaux, mon entrepôt. Je voulais qu'on soit... que tout soit au même endroit pour faciliter justement les opérations. Créer ce sentiment d'appartenance-là aussi pour les joueurs de pratiquer sur le terrain où ils jouent. Ça fait une différence aussi. Les négociations ont commencé. Mon Dieu, les négociations avec la ville de Verdun ont commencé avant même que je me joigne à l'équipe. Donc, la Ligue savait qu'il voulait avoir une équipe à Montréal. Le commissaire de la Ligue, le propriétaire de la Ligue avait déjà entamé des démarches. Il y avait quelqu'un ici à Montréal qui les conseillait. Et puis finalement, quand ça a commencé à se concrétiser, on m'a offert le poste et là, j'ai commencé les négociations officielles pour le bail.
OK. Je peux te le dire en même temps. Moi, j'habite sur la Rive-Sud. J'habite... pas très loin du pont Champlain, puis c'est parfait pour moi parce que c'est à Montréal, oui. Moi, j'adore aller à Montréal, mais en plus, c'est près quand même de la Rive-Sud, puis niveau stationnement, c'est quand même accessible, surtout qu'il n'y a pas non plus 40 000 personnes qui y vont, là. Il y a du stationnement dans les rues à côté, il y en a un peu directement à côté de l'amphithéâtre, donc c'est un bon choix.
C'est un bon choix si on est à côté du métro.
C'est sûr, oui, c'est vrai, métro de l'église.
De l'église, exactement.
De l'église, c'est ça. OK. Mm-hmm. Puis, est-ce que l'Alliance de Montréal, est-ce que, dans le fond, c'est considéré comme une business ou est-ce que vous devez faire un certain nombre de profits?
Non, oui, c'est sûr. C'est une business. Donc, comme toute bonne business, on a des dépenses, mais il faut qu'il y ait des revenus qui rentrent, il faut qu'on fasse des profits si on veut, si on veut survivre.
Oui. Puis c'est quoi, si c'est pas trop indiscret, en fait, vos plus grandes dépenses, j'imagine, il y a le loyer, il y a le salaire des joueurs. Puis les plus gros revenus, est-ce que ça vient de la billetterie ou ça vient des sponsors, droits télé? Comment ça fonctionne?
En fait, c'est vraiment le premier, le plus gros revenu, c'est la billetterie.
La billetterie.
Ensuite, c'est les partenaires. Et puis, non, les droits télé, c'est pas là encore où on va chercher nos revenus principaux.
OK, c'est ça. Est-ce que vous êtes encore diffusé cette année à la radio 91.9 FM?
91.9, TSN 690. On est à TSN et RDS également.
OK. Excellent. Ouais, c'est une bonne information. On aime ça à CISM. Petit retour sur la saison dernière. J'ai assisté à beaucoup de vos matchs. J'avais déjà fait une entrevue aussi avec l'entraîneur des Newfoundland Growlers, le fils de Patrick Ewing. Ouais. Puis il avait dit de loin que c'était la meilleure ambiance de toute la ligue.
Oui.
Malgré ça, on a terminé dernier, 4 victoires, 16 défaites. C'était la première année, on avait une équipe jeune. Vous, qu'est-ce que vous retenez de votre première année? Qu'est-ce que vous avez aimé, que c'est très bien passé? Puis est-ce qu'il y a des choses que... vous pensez qu'on peut faire mieux cette année?
Ah oui, ça c'est certain. Mais ce qu'on a aimé, c'est d'avoir justement une bonne base de partisans. Donc, si c'était à refaire, on était numéro un dans la ligue pour les assistances, la vente de marchandises, mais on était dernier au classement. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose parce que ce qui est important, c'est de bâtir notre base de partisans, de créer un sentiment d'appartenance, puis que les gens aient envie de se retrouver avec nous et de venir à l'auditorium de Verdun voir des matchs. Le meilleur exemple, c'est le dernier match de la saison. On sait qu'on est éliminé des séries, on est en dernière position au classement, on perd le match, mais on est quand même sale comble, puis tout le monde est resté jusqu'à la dernière seconde debout, puis l'ambiance était électrisante. Donc, ça, c'est notre plus grande fierté. On est vraiment heureux de ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses à corriger? C'est sûr et certain. À commencer par ce qui se passe sur le terrain. On doit avoir plus de victoires. On doit gagner plus de matchs. Mais on a fait un sondage aussi auprès de nos partisans pour dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce qu'on devrait refaire ou on oublie complètement ou on garde, mais on améliore. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus pendant la saison morte pour améliorer le produit puis s'assurer que les gens ont toujours une bonne expérience quand ils mettent les pieds à l'auditorium de Verdun.
OK. Génial, cool. Puis, est-ce que vous l'avez pas mentionné directement, mais à date, est-ce que les finances de l'Alliance vont bien? On va faire toute l'année cette année, puis probablement les autres après ou suite.
Oh, on est parti pour la gloire, ça va très bien. Oui. Je sais que c'est une inquiétude des gens parce qu'il y a eu des équipes. En fait, on a eu de nombreuses équipes à Montréal par le passé qui ont duré une année ou deux, puis qui finalement ils ont plié bagages. Mais c'était justement une des premières questions que j'ai posées quand j'ai rencontré les gens de la Ligue, de savoir où est-ce qu'on s'en allait, c'était quoi le modèle d'affaires. Puis évidemment, on a un propriétaire, Richard Petko, qui est engagé, qui veut que ça fonctionne. Et puis la structure qui est mise en place fonctionne. Donc, on est là pour rester.
Excellent. Puis vous en avez parlé, vous en avez glissé un mot tout à l'heure. Vous avez parlé de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. C'est pas vous qui recrutez les joueurs. Est-ce que c'est vous qui engagez les entraîneurs ou ça vous laissez ça à votre GM?
Non, c'est le GM qui s'occupe
c'est le GM.
De ça.
Okay.
Ouais. Moi, je peux établir ma liste de souhaits, des critères de base, puis ensuite lui il part à la recherche.
OK. Puis est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus sur pourquoi Vincent Lavandier a quitté ou ses raisons personnelles puis vous voulez pas élaborer là-dessus?
Ben en fait, dans la Ligue, les contrats sont signés pour une saison. Alors, c'est contrairement à d'autres sports, on signe pas un coach, nous, pour 3 ans. Donc, le coach est signé pour la saison. À la fin de l'année fiscale, le 31 août, le contrat est terminé, puis on renégocie. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. À la fin de la saison dernière, on a évalué. Comme je disais, on a fait un post-mortem, on a fait un post-mortem avec tout le monde. On a sondé auprès de nos partisans, mais aussi à l'interne, avec les joueurs, avec les coachs, avec toute l'équipe médicale qui est impliquée. Donc, c'est important d'avoir le pouls de tout le monde puis dire où est-ce qu'on s'en va avec ça. On a une saison de 12 semaines. C'est très, très condensé. Oui. Donc, on peut pas être une équipe de développement. Donc, il faut aller chercher un entraîneur qui va être capable d'opérer avec une équipe qui passe 8 jours en camp d'entraînement. Donc, on parle pas de 2-3 semaines de camp d'entraînement ici. Oui. Donc, il fallait revoir la vision. Donc, aucun jugement ou aucun commentaire négatif envers ce qui a été fait l'année dernière. On a juste réalisé que ça prenait quelque chose de différent, tout simplement.
Parfait. OK. Excellent. J'aime ça. Puis, j'ai encore quelques petites questions au niveau financier, puisque c'est très rare qu'on entend parler de ces choses-là. Mm-hmm. Premièrement, est-ce que c'est vrai, ça, j'ai lu sur Internet, que à chaque match, en fait, l'équipe a une enveloppe de 8 000 $ à diviser entre les joueurs qui participent au match? Est-ce que c'est à peu près ça?
C'est à peu près ça.
Donc, un ça joueur gagne entre 500 et 1 500 $ par match, à peu près.
Exact.
OK. Puis ils ont aussi le logement puis d'autres avantages également, ou ça s'arrête seulement à ça?
Non, évidemment, on fournit logement aux joueurs qui sont pas locaux. Donc oui, on prend soin de notre monde, là, c'est certain. On a des joueurs qui arrivent de la NBA, comme Trevion Graham qu'on a cette année. On prend, puis de toute façon, même si c'était un gars de Dunsick ou de Montréal-Nord, on en prend soin. Donc on prend soin de notre monde. On veut que la seule chose qui est à se concentrer, c'est le basket. Donc on s'occupe du reste. On s'occupe des repas, on les loge, on s'occupe du transport, et puis on veut qu'ils se concentrent sur le basket.
OK. Génial, très intéressant. C'est rare, hein, parce que quand on pense à des salaires de joueurs de basketball, on pense à des millions. Puis là, il faut rappeler les choses, là, c'est que le salaire des joueurs de la CBL est quand même beaucoup plus bas que ceux des ligues professionnelles. C'est normal, là.
Oui, mais en même temps, c'est parce que quand on regarde ça, on joue 20 matchs. Donc, on n'est pas une saison, par exemple, notre saison dure 12 semaines, je le rappelle. Donc, c'est pas une saison de septembre à mai où tu joues 80 matchs dans l'année. Puis, quand tu additionnes tout ça, bien évidemment, c'est 3-4 fois ce que le montant que nous, on offre en 12 semaines. Donc, à un certain moment, évidemment, on ne compare pas à l'NBA. Là. On n'a pas des 54 millions à s'offrir pour un joueur, malheureusement. Mais bon, ils sont bien traités.
Est-ce qu'il y a des bonnies pour les joueurs, dépendamment de leur performance? Puis est-ce que l'équipe qui gagne le championnat a une enveloppe d'argent qui est redonnée à l'équipe pour l'institution, ou ça marche pas comme ça?
Oui. Donc, il y a des bonnies pour les joueurs qui sont... les bonnies sont les raisons, pour les bonnies sont différentes d'un joueur à l'autre. C'est négocié dans l'entente. Et puis, en fait, les joueurs reçoivent un bonnie aussi. Plus ils se rendent loin en série, plus le montant est élevé.
OK, excellent. Et autre petite question, quels sont vos... objectifs de l'Alliance de Montréal cette année, tant sur les plans sportifs, peut-être culturels et du public? Est-ce que vous avez des attentes spécifiques?
Bien, en fait, c'est certain qu'on veut continuer à bâtir notre base de partisans. C'est important. On veut l'agrandir, mais ceux qui sont déjà là, on veut en prendre soin aussi. Donc, on veut que les gens... Il y a un grand sentiment d'appartenance puis d'accessibilité. On est dans un petit amphithéâtre. On a des joueurs locaux. Donc, les gens ont vraiment l'impression qu'ils font partie de la famille. Ça, c'est important pour nous. On veut continuer ça. Notre implication dans la communauté, ça fait partie de notre ADN. Donc, on se rappelle, je l'ai dit souvent, notre saison est 12 semaines. Mais pendant les 40 autres semaines, qu'est-ce que je fais? C'est important pour nous d'être impliqués, de ne pas tomber dans l'oubli non plus, d'inspirer les jeunes. On le sait, là, le basketball professionnel n'a pas super bien été à Montréal, au Québec, les dernières années. Nous, on veut dire aux jeunes, parce que c'est un sport qui est grandissant, qui est populaire, on veut leur dire, on veut les inspirer pour leur dire, tu sais quoi, un jour, là, tu pourrais jouer au basket chez toi, devant ta famille, devant tes amis, ou même travailler pour une équipe sportive sans être un athlète professionnel. Puis dans les prochains jours, là, on va annoncer 2 super beaux programmes communautaires qu'on a mis sur pied. On est vraiment contents. Puis évidemment, de gagner des parties, hein, ça fait partie des plans.
Oui, excellent, excellent. Comme Nathan Caillot, je crois que c'est un Montréalais.
Oui.
Et on le sent quand on fait des entrevues avec lui après les matchs. On sent qu'il y a quelque chose de plus, qu'ils sont comme fiers de représenter la ville dans laquelle ils ont né, dans laquelle ils ont grandi, et surtout, ben pas surtout, mais également représenter la diversité de Montréal, parce que cette diversité-là, dans le sport comme le hockey, par exemple, qui est le sport numéro un au Québec, c'est pratiquement médiatiquement, c'est que ça, c'est presque totalement inexistant, alors qu'avec l'Alliance, on est capable de voir ça, puis ça fait du bien.
Effectivement, comme on le disait, les jeunes, quand on arrive dans une école, puis le joueur dit, ben moi, je suis venu ici au secondaire, j'ai joué ici, je jouais dans ce gymnase-là quand tout a commencé, puis raconte son parcours, fait que les jeunes, ça les interpelle, ils se disent, ben c'est quoi, moi aussi, ça pourrait être moi, ça. Je joue sur les mêmes planches que lui, puis je pourrais moi aussi. Finir par être un sportif professionnel. Donc, c'est intéressant.
Parce que même s'ils ne gagnent pas énormément d'argent, ça reste qu'ils jouent dans d'autres endroits. Puis l'été, c'est encore mieux, ils peuvent venir ici puis jouer devant leur ville. C'est comme un
exactement.
Gros bonus.
Oui, parce que ces joueurs-là, ils jouent ailleurs pendant la saison nord.
Oui.
Donc, ils sont avec nous l'été, puis après ça, ils retournent, que ce soit dans la J-League ou les Ligues européennes. Donc, c'est une carrière qui se poursuit. Puis nous, ben on est la Ligue d'été.
Ben c'est ça, parce qu'il y en a qui jouaient. J'ai regardé l'année dernière dans les joueurs que vous aviez. Là, il y avait des joueurs qui jouaient en Tunisie. Là, il y en a un qui a joué en Grèce. Vous avez signé un joueur grec. Donc, il y a des joueurs de partout. Là, c'est tout à fait exotique, non seulement l'équipe, mais où est-ce qu'ils jouent?
Oui, effectivement.
Très intéressant.
Oui.
Puis dernière petite question pour vous, Madame Larouche. Qu'est-ce que vous pensez que ça sera le futur du basketball à Montréal, selon vous? Et autre question, est-ce que vous y voyez un jour peut-être une équipe de la NBA sur l'île de Montréal?
Oui, c'est une bonne question. C'est sûr, on parlait de finances tantôt. La NBA, on parle de milliards. Hein? On parle pas de millions. Donc, ça prend des investisseurs qui ont des bonnes poches, des poches profondes. Ça prend un engagement à long terme parce que c'est un gros investissement. Puis, ça rapporte pas du jour au lendemain non plus. Difficile pour moi de juger là si. S'il y a de la place ou non, mais il y a de l'intérêt. C'est sûr qu'on le mentionnait, l'intérêt est grandissant pour le basketball à Montréal, au Québec et au pays. Donc, je pense que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ça va continuer à grandir.
Oui, c'est ça. Puis c'est bien pour le moment parce que l'équipe de la CIBL, de l'Alliance de Montréal à l'heure actuelle, elle vient vraiment chercher un désir de basketball sur l'île de Montréal. Donc, vous avez un amphithéâtre rempli. En tout cas, vous l'aviez l'année dernière, peut-être cette année aussi, ça le sera. Est-ce qu'il y a un projet d'expansion de la Ligue? Est-ce que vous le savez? Si, par exemple, bon, Québec, Halifax, je sais pas, il doit y avoir peut-être d'autres villes aussi au Canada. Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez des fois, président?
Oui. Il y aura des annonces au courant de l'année.
Il y aurait des annonces au courant d'année. Parfait. OK. Merci beaucoup pour ton temps, Annie. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre? Peut-être date d'ouverture, le prix des billets, comment on fait?
Oui, bien évidemment, le match d'ouverture qui est vendredi, le 26 mai, qui est presque... il reste presque plus de billets, mais on en a un autre dimanche aussi qui est pas moins intéressant, moins important parce que c'est pas le match d'ouverture. Donc, si vous cherchez quelque chose à faire ce week-end, vous venez nous voir.
Donc, dimanche 28 mai, à quelle heure?
À 16h.
À 16h. Puis le prix des billets, c'est combien à peu près?
À partir de 20 $.
20 $?
C'est très, très abordable.
Très abordable. En effet, c'est le moins cher en ville.
c'est la meilleure dépense du week-end.
Excellent. Puis les abonnements saison, comment est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup selon vos attentes?
Oui, on a surpassé nos attentes. L'année dernière, on en avait un peu plus de 600. Et cette année, on a atteint le 1000 billets de saison. On a dépassé le 1000 billets de saison. On est la première équipe aussi dans la Ligue à atteindre ce plateau. Donc, on est vraiment, vraiment super excités.
OK. Ben écoutez, merci beaucoup pour votre temps. J'ai très hâte que ça commence. Puis moi, en tout cas, je vais aller vous supporter puis je vais en parler à mes amis puis à mes collègues pour qu'on aille vous encourager. Parce que vous l'avez dit, la billetterie, c'est important aussi côté Alliance Montréal.
Exactement. Merci. Je l'apprécie.
Merci beaucoup pour ton temps, Annie. Puis bonne semaine puis bonne chance pour la saison.
Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir.
Bye-bye.
Voilà, donc c'était Annie Larouche, vice-présidente aux opérations de l'Alliance de Montréal. Le match aujourd'hui d'ailleurs contre les Ottawa Blackjack. Ça se passait à 16h à l'Auditorium de Verdun. Il reste des billets, donc si vous avez un peu de sous, donc une vingtaine de dollars, vous pouvez vous procurer un billet. Et puis vous êtes près de l'action, peu importe vous êtes assis où, là, parce qu'on sait, l'Auditorium de Verdun, c'est pas le Camp Nou, et c'est pas le Centre Bell non plus, ni le stade des Cowboys de Dallas. Donc un petit retour sur le match d'ouverture. L'Alliance l'a gagné 84 à 69 contre l'équipe favorite pour remporter le titre, les Niagara River Lions. Et dans ce match-là, on a eu 30 points de Blake Francis, 17 de Ahmed Hill, le capitaine. Et en termes de rebound, les rebonds, on en a eu 10 pour Nathan Caillot, le Montréalais, et 14 pour Trevion Graham, qui est un ancien joueur de la NBA. L'amphithéâtre était plein avec 3500 personnes. C'était sold out. Du moins, tous les billets ont été vendus. Là, c'est sûr qu'il y avait quelques trous parce que vous savez que les gens qui achètent des billets de saison, des fois, quand ils se présentent pas, les billets sont quand même vendus. Et c'est très intéressant, le basketball, parce que c'est une autre ambiance. Il y a tout le temps de la musique en background qui joue. Puis donc ça fait plaisir à voir parce que ça met une ambiance pour ceux qui connaissent aussi un peu moins le basketball. Et quand t'es prêt, les billets, quand t'es sur le parterre, par exemple, et puis tu peux observer les joueurs de près, c'est très impressionnant. C'est beaucoup de va-et-vient. On a aussi des cheerleaders qui mettent l'ambiance. Donc c'est une bonne ambiance familiale ou si vous voulez y aller avec des amis, avec votre copine ou même tout seul à l'Auditorium de Verdun, allez-y, le métro est pas loin. Le stationnement, il y en a vraiment pas loin aussi dans les rues résidentielles à côté. Maintenant, par rapport à ce match-là, on va écouter l'entraîneur en chef Derek Alston Sr. qui dirigeait son premier match avec l'Alliance de Montréal.
Hi coach, thank you for your time. Congratulations on the win.
Thank you.
Niagara was one of the favorite teams to win the league. I mean, they still are. Does this win against that team tonight shows that basically you can't compete against anyone in the league, or it's too early?
I mean, it's early, but I can tell you now, we're going to compete. You know, I might not win them all, but we're going to compete because that's the standard, right? The wins, the losses, you know, they come and go, mistakes, foul trouble, injuries. But one thing we're going to do all year is we're going to compete. So that effort and energy is going to get better because we'll, you know, figure out some things, clean up some things. But one thing that's going to be the standard, we're going to compete. I don't care who we're playing. The worst, who you guys say the worst team, who you guys say the best team, that team will get better. They don't have two of their guys. And, you know, we realize that, but I don't care. Like, yeah, you show up to play, we all lace them up, we play. So we got the first one. We look forward to the next game on Sunday.
And how are you satisfied with your performance from your captain, Ahmed Hill, tonight?
I mean, he was great. I mean, the kid he can score the ball, you know, and I think the best thing that we did tonight, we shared the ball. You know, Blake, he had a moment where he took over. He had a moment where he started making shots. And then, you know, Trevion made some tough shots down the middle. Nathan was, you know, rebounding. Binium was battling the big fella they had. You know, so like, I think everybody did their part. You know, my statement to the team before the game, trust, do your job. And I think everybody did their job. You know, people were supposed to score. People were supposed to rebound. People were supposed to defend, be physical, beat people up. Elijah, all those guys, everybody did their job. So I was very happy with that.
And did you have a chance to interact with Chris Boucher? Did he have some words for you?
Well, I know him from, you know, all these years when they used to send him down to the 905 and I used to, you know, talk to him and mess with him. But, man, you don't need to come back to the G League. Go stay up with the Raptors. You know, you're killing us. Like, go away. So it was good seeing him. And, you know, I just thanked him for coming out to support. You know, it's always good when you got the guys that from the city come out, the players notice that, and you know, I think it gives them some energy.
Voilà, donc c'était le coach Derek Alston de l'Alliance de Montréal, donc qui a dit, bien sûr, qu'il a apprécié le fait que Chris Boucher était là, il le connaissait déjà. Chris Boucher, d'ailleurs, qui est un joueur de la NBA de Toronto, là, qui a signé énormément d'autographes, tout ça. Il était très posé, très relax, il était venu avec ses lunettes de soleil. Chaque fois que quelqu'un lui demandait, il faisait un signe de la tête en voulant dire « oui, oui, c'est correct, je vais te le signer ». Donc c'était très bien et très généreux de Chris Boucher. Et également, il a dit que, bon, Hamilton n'avait pas deux de leurs meilleurs joueurs aussi, donc c'est vrai, mais il disait aussi qu'ils vont compétitionner toute cette année l'Alliance de Montréal et que également les joueurs avaient confiance et puis qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc malheureusement, on n'aura pas le temps pour l'entrevue avec Blake Francis. On a juste le coach parce qu'il nous reste 2 minutes à l'émission. Je vais vous parler des matchs à venir aujourd'hui dans le monde du soccer, dans le monde du ballon rond. Donc aujourd'hui à 1h, on a Valence qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Donc ça, c'est un match très important pour la relégation en Espagne. 2h45, on a la Juventus qui reçoit le AC Milan. 11h, on a la finale de la Coupe de Tunisie entre Beja et l'Espérance de Tunis. El Taraj El Riadi El Tounsi, comme on dit en arabe. 9h35 ce soir, c'est la finale retour du championnat mexicain entre Chivas de Guadalajara et les Tigres de Monterrey. Donc, on va voir un champion mexicain ce soir. 31 mai, mercredi, finale de l'Europa League Roma-Sevilla. ILCF Montréal se déplace du côté de DC United. Et samedi, le 3 juin, ça c'est samedi prochain, mesdames et messieurs, on va avoir Manchester City, la machine, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Mahrez, tout ça là. Bernardo Silva, eh bien, ils seront en action parce que c'est la finale de la Football Association Cup, la FA Cup, entre Manchester United et Manchester City. Donc, allez regarder ça. Sinon, d'autres petites nouvelles. Vite fait, il y a eu un incident au El Salvador la semaine passée à Cuscatlan. Il y a eu plus de 10 morts. Il y a des gens qui ont été refusés, qui avaient des billets. Donc, il y a des gens qui ont défoncé la porte de l'entrée. Puis, il y a des gens qui sont morts, piétinés malheureusement. Il y avait trop de gens dans le stade. Donc, il y a eu beaucoup de morts parce que, un, déjà, c'est trop, mais il y en a une dizaine. Et il y a eu également des gens qui sont allés à l'hôpital. Donc, ça a été très triste, une très mauvaise nouvelle de ce côté-là. Et il y a eu des incidents racistes du côté de l'Espagne avec Vinicius qui s'est fait insulter copieusement du côté de Valence avec des insultes racistes que je ne répéterai pas en ondes. Et donc, les deux derniers jours, eh bien, les deux derniers matchs, Vinicius n'a pas joué. Je crois qu'il a été très affecté par ça. Ça l'a fait le tour du monde. Même le président du Brésil en a parlé. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Universitaire en action et Soccer Sport sur les ondes de CISM et CFAC. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Wissam Bensta au microphone. On se revoit la semaine prochaine, dimanche, à 9h jusqu'à 10h le matin. Bonne semaine et au revoir.